de l'évangile de Marc, on s'en était arrêté au cours du chapitre 4. On va poursuivre à partir du chapitre 4, verset 35, et pendant les deux mardis, enfin ce soir et mardi prochain, on essaiera d'aller jusqu'au chapitre 6, verset 44. Donc on va voir là Jésus qui va être face à des situations extrêmes. Et on va faire, pour commencer, juste un petit rappel du contexte, pour essayer de se resituer dans où est-ce qu'on en est dans l'Évangile. Et puis on va noter deux, trois points qui sont importants et qui vont nous permettre aussi peut-être de mieux apprécier ce qui va être vu après dans les scènes que nous allons étudier. Alors, au niveau des épisodes précédents, on a vu en fait que l'Évangile est vraiment parti sur les chapeaux de roue, c'est-à-dire que ça va vraiment dans tous les sens dans Marc. Et si on s'amuse à le lire les premiers chapitres sans s'arrêter, les premiers chapitres de Marc, vraiment, c'est quelque chose qui peut donner le tournis parce que on est complètement embarqué dans la frénésie du début du ministère de Jésus. Et ça va vraiment à 1000 à l'heure. D'ailleurs, il y a le terme « aussitôt » qui est très très utilisé dans le livre de Marc. Je crois qu'il est utilisé 25 fois sur 16 chapitres. Donc « aussitôt », ça veut vraiment dire que les scènes, elles s'enchaînent. Donc, on avait vu donc, les mardis précédents qu'on était rentré dans le vif du sujet, avec Jésus qui s'est beaucoup déplacé dans la Galilée notamment. Il a commencé à accomplir des miracles. Il a commencé son ministère et il y a eu deux effets principaux du démarrage de son ministère. Le premier, c'est que la foule est dorénavant présente dès qu'il est repéré, un petit peu comme les célébrités de nos jours. Dès qu'on le reconnaît, mais de suite, il y a la foule qui s'agglutine autour de lui. Donc ça, c'est vraiment significatif. Et puis, il commence aussi à s'attirer l'opposition des responsables religieux. Et parce qu'en fait, il commence à voir dans ce personnage qui fait des miracles spectaculaires une menace. Et donc, au stade où nous en sommes, là, dans le chapitre 4, il y a déjà eu plusieurs échanges de joutes entre Jésus et les responsables. Donc, ça a déjà démarré. Donc, sur le chapitre 4 que nous allons poursuivre aujourd'hui, nous avons eu, dans le début du chapitre, un enseignement assez long de Jésus, sous forme de parabole. Notamment, nous avons lu la célèbre parabole du semeur. Et donc, si on fait un petit point sur la structure du livre de Marc, comment est-ce qu'en fait il est composé, c'est juste pour le voir rapidement et pour voir où on se situe dans le livre. En fait, il y a vraiment deux parties dans le livre qui sont assez marquées. La première, elle est caractérisée donc par les déplacements de Jésus, du chapitre 1 au chapitre 10. Donc Jésus ne fait que se déplacer, c'est vraiment très très net. Donc en fait, ça représente les trois premières années de son ministère. Elles sont décrites dans les 10 premiers chapitres. Et c'est pour cela qu'on a vraiment une impression de vitesse. Et ensuite, la deuxième partie de l'Évangile, les chapitres 11 à 16, l'Évangile, là, se ralentit et se concentre vraiment sur les derniers jours de Jésus à Jérusalem. Donc là, il y a vraiment un ralentissement dans tout ce qui est décrit, dans la façon dont Marc nous décrit la vie de Jésus. Et enfin, le style de cet évangile de Marc, on le fait vraiment pour se préparer à ce qu'on va voir, pour avoir vraiment des clés de compréhension. Il a un style qui peut paraître assez simple, assez succinct, mais c'est sans doute volontaire. En fait, Marc, il ne cherche pas à argumenter et à commenter de manière approfondie des principes théologiques, mais en fait, il cherche à décrire, à présenter les faits de manière à ce que nous puissions, nous, en déduire les réalités qui sont présentées. Notamment le fait de dire que Jésus est le Fils de Dieu et que Jésus est Dieu lui-même. En fait, tout ça, il faut qu'on le comprenne, nous, en lisant. C'est par exemple différent de ce que fait l'apôtre Paul dans les évangiles, où là, il rentre vraiment dans des argumentations théologiques très poussées, et ça, ça nous enrichit aussi d'une autre manière. Mais le style de Marc, lui, c'est pas aussi approfondi dans les détails de la narration, mais c'est tout aussi percutant. Et ça peut faire penser un peu quand on essaie d'évangéliser quelqu'un, mais on a deux moyens de le faire. Soit on va essayer d'argumenter, de décrire vraiment quel est le message de l'évangile, de montrer par des versets tout ce que dit la parole. Ou alors on peut évangéliser aussi par son comportement et par le fait qu'en fait on vit l'évangile en nous. Donc c'est un peu la même idée. Et vraiment, ce livre de Marc est très riche sur tout l'enseignement théologique suggéré qu'il présente. Voilà, tout est suggéré. C'est au lecteur de tirer ses propres conclusions et de faire lui-même les liens avec notamment les passerelles qu'il y a avec l'Ancien Testament et qui sont assez nombreuses. Donc voilà, tout ce principe-là va nous poursuivre dans ce qu'on va étudier aujourd'hui et mardi prochain. Donc on va conclure, on va être poussé à conclure des grandes vérités sur Jésus. Et donc, ce que Marc veut nous faire voir dans ce premier bloc que nous allons étudier ce soir, de Jésus face aux situations extrêmes, les trois points qu'on va voir en fait, on peut déjà afficher ce qui va nous être enseigné. En fait, tous ces passages-là vont démontrer l'autorité du Seigneur face à tous ces événements qui vont être décrits. C'est vraiment asseoir l'autorité du Seigneur, de Christ, face à toutes ces situations. Donc la première scène que nous allons lire, donc c'est Marc 4, 35 à 41, c'est Jésus qui calme la tempête. Et donc, si quelqu'un veut lire ce premier passage.
Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait-il rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. »
Voilà, merci. Donc on a dit qu'on passe d'une scène où Jésus va enseigner la foule à une scène qui normalement se veut beaucoup plus calme. Jusqu'à présent, ça allait à 200 à l'heure. Au point même que lorsque Jésus et le groupe de disciples essayent de chercher du repos, mais là en fait ils ne vont même pas pouvoir en trouver. Parce qu'en fait, il va se passer donc un événement qui va marquer les disciples. Donc, Jésus il renvoie la foule, ils se mettent donc dans la barque. En fait, ils ont vraiment besoin d'être entre eux, de se reposer. Et d'aller dans une barque, c'est quand même un moyen assez simple de s'isoler un petit peu de la foule. Alors, le but de Jésus, c'est pas de fuir la foule. On sait très bien qu'à chaque fois qu'il y avait des foules, Jésus était attiré et allé au-devant de cette foule. Mais là, voilà, ils ont besoin de se déplacer et ils ont besoin de se reposer. Donc, ils sont entre eux. Il est écrit au verset 36 qu'il y a d'autres barques aussi. Alors, peut-être qu'il y avait quand même quelques personnes qui les suivaient. C'était peut-être un groupe de disciples un peu élargi. Et donc là, il y a une grosse tempête. Mais vraiment, apparemment, une très très grosse tempête. On comprend en fait que c'est une tempête qui avait une intensité tellement forte qu'elle a réussi à effrayer des pêcheurs professionnels, puisque parmi les disciples, il y avait quand même beaucoup de pêcheurs, donc ils avaient l'habitude d'être sur l'eau et ils connaissaient vraiment ce genre de conditions. Donc ils sont ici sur la mer de Galilée. Un petit point sur la situation géographique particulière de cette mer, donc c'est un petit peu entre un lac et une mer, c'est vraiment un peu entre les deux. C'est une étendue d'eau qui est coincée entre deux vallées de montagnes assez hautes. Et d'ailleurs, ce qui est particulier, c'est que le niveau de ce lac est en dessous de la mer, de plus de 200 mètres à peu près. Et c'est assez connu pour qu'il y ait quand même des vents assez forts qui s'engouffrent dans cette vallée, entre ces montagnes, et qui sont capables de provoquer donc, des conditions climatiques assez intenses. Et donc là, on peut lire au verset 37, « Il s'éleva un grand tourbillon ». Donc c'est vraiment... c'est un tourbillon, quoi. Il devait être complètement ballotté dans tous les sens. La façon dont les disciples réveillent Jésus et ce qu'ils lui disent, ça montre clairement que la situation est totalement anormale et que la situation est vraiment en train de leur échapper. Ils disent au verset 38 « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Donc, sous-entendu, là, on est en train de mourir. Et en fait, toi, tu es en train de dormir. Est-ce que tu t'en fiches? C'est vraiment la cata. La situation est donc, pour eux, on comprend qu'elle est vraiment désespérée. Et pourtant, ce sont des navigateurs chevronnés. Donc, ils sont dans une crainte qui paraît tout à fait légitime. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus, lui, il est en train de dormir. Donc, il le réveille. Il se lève et il menace le vent. Et il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et tout redevient calme et serein. Donc là, il faut essayer d'imaginer le contraste entre la panique dans la tempête, avec peut-être qu'il y avait du vent, il y avait peut-être de la pluie, il y avait de l'eau, il y avait du bruit. Et tout d'un coup, on passe sur un silence absolu, avec une mer tout à fait calme. Il a dû se passer quoi, quelques secondes, le temps que les remous s'apaisent et se calment. Et donc, verset 39, il est parlé d'un grand calme. Il y eut un grand calme. Donc là, bien entendu, tous les disciples sont absolument scotchés. Ils ont vécu ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel. Et le vent s'arrête immédiatement. On imagine donc le silence, hein, avec seulement les mots du Seigneur qui ont dû claquer dans l'air. Ce qui est évident dans la réaction des disciples, c'est qu'ils ne peuvent que reconnaître que les conditions ne sont pas revenues à la normale de manière naturelle, mais qu'elles étaient sous les ordres de Jésus lui-même. Un changement aussi brutal n'a jamais pu être observé par ces pêcheurs habitués à naviguer. Ce qu'ils ont vu était bien surnaturel. Et ce qui peut nous frapper au verset 41, c'est leur réaction aussi. Ils furent saisis d'une grande frayeur. En fait, c'est tellement spectaculaire ce qu'ils ont vu de Jésus qu'ils ont presque plus peur après la tempête que pendant. Parce que pendant, ils ont vraiment peur pour leur vie. Mais le fait que les éléments obéissent à ce point à Jésus, ça les rend encore plus agités en eux-mêmes parce qu'ils réalisent qu'il y a quelque chose de divin parmi eux. Et ça peut faire penser d'ailleurs à la réaction de Pierre lorsque, avec les autres disciples, ils avaient rencontré Jésus. On peut lire Luc 5, versets 4 à 9, si quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît. Luc 5, 4 à 9.
Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite.
Voilà, c'est un petit peu le même type de réaction de la part de Pierre. Hein. On a l'impression que là aussi, les disciples sont épouvantés et qu'ils voudraient s'écarter de Jésus tellement qu'ils sont impressionnés par ce qu'ils viennent de voir. Mais dans la proximité de la barque, là, ils ne peuvent pas s'écarter de lui. Donc, qu'est-ce que nous enseigne donc ce passage spectaculaire? On va essayer de voir quels sont les enseignements principaux et les applications qu'on peut en tirer pour nous-mêmes. Déjà, il est question de l'humanité de Jésus. Nous avons vu que Jésus est en train de dormir dans la barque au travers de conditions extrêmes. Et cela, ça montre en fait qu'il était totalement épuisé. C'est pas qu'il se désintéresse de ce qui se passe, c'est qu'en fait il est totalement épuisé après ces temps qu'il a passé avec la foule à enseigner et à s'occuper de tous les malades. Et vous connaissez certainement cette sensation d'être totalement exténué après un événement particulier qui nous a accaparé l'attention. Par exemple, on peut vivre un mariage, on peut avoir une grosse journée de travail, on peut vivre un déménagement. Il y a tout un tas de conditions qui font qu'on peut arriver à être exténué au bout d'un moment. Et donc ce passage-là nous prouve que Jésus a lui aussi ressenti la fatigue. Il était équipé de la même façon que nous. Et comme nous, il lui arrivait d'avoir des fois les batteries à plat. Donc son corps a vraiment besoin de se mettre en pause et il est vraiment entraîné dans un profond sommeil. Ici, nous pouvons donc tirer comme enseignement que Jésus sait par quoi nous passons dans notre quotidien. Et il n'est vraiment pas éloigné de nos problèmes. Il sait exactement ce que nous vivons. Il sait quand nous sommes fatigués. Il sait ce que ça représente. Donc l'enseignement aussi, c'est la divinité de Jésus. Et ça, c'est le contraste saisissant de ce passage. Autant Jésus est pleinement humain, il est capable de complètement tomber de sommeil dans une barque. Mais là, Marc, il veut nous démontrer en fait que Jésus est aussi pleinement divin et que Jésus a l'autorité sur la nature. Et on peut d'ailleurs faire un petit pont avec l'Ancien Testament. Peut-être que c'est ce à quoi Marc pensait quand il a écrit de cette façon ce passage, qu'il a décrit ça. On va lire le psaume 107, versets 23 à 31, si quelqu'un veut.
Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré.
Voilà, le 31 aussi peut-être.
Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme.
Voilà, donc là, c'est vrai que on voit quand même pas mal de similitudes hein, avec ce passage. Alors, l'auteur de ce psaume avait peut-être en tête ce qu'a vécu Jonas, peut-être, mais en tout cas, on voit vraiment, on peut faire un lien, une passerelle, et on voit que dans ce passage, c'est vraiment l'Éternel qui calme la tempête. Et On a eu un peu l'impression, quand on a lu ce psaume, de relire le passage qu'on a lu dans Marc. Hein, c'était la même chose, ils étaient ballottés, ils étaient complètement anéantis. D'ailleurs, nous, dans notre verset 27, c'est dans ici. Toute leur habileté, voilà, dans le psaume, toute leur habileté était anéantie. C'est exactement ce que les disciples ont vécu lorsqu'ils ont été poussés à réveiller Jésus. Il arrêta la tempête. Ramena le calme et les ondes se turent. Voilà, ce passage nous enseigne très clairement, en tout cas le suggère très clairement, que Jésus est Dieu. Comme application personnelle, je peux me questionner si vraiment mon cœur a bien saisi cette réalité. On se dit souvent, oui, c'est bon, j'ai compris, mais je me rends compte que parfois j'ai peut-être tendance à considérer Jésus comme un simple pote d'équipage, ou comme un confident, ou comme un psy qui serait là pour vraiment m'aider à me remonter le moral. Mais Jésus est vraiment plus que ça. Et c'est ce que les disciples, soudain, ont réalisé. Dieu est d'abord avec nous. Et ça, c'est vraiment aussi la chose qu'on peut se rappeler en lisant ce passage. Et puis le dernier point qu'on peut lever de ce passage, Nous devons nous arrêter ici sur la réaction des disciples, hein, la foi contre la crainte, parce que on ne peut pas passer à côté du reproche que le Seigneur leur adresse. Il leur dit donc au verset 41, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» dit-il en fait lorsque le calme est revenu. En fait, au moment où les disciples auraient dû faire preuve de foi, avant et après, ils auraient dû faire preuve de foi. Pourquoi avant? Parce que au début, les disciples, ils ont voulu premièrement s'en sortir tout seuls. Alors peut-être qu'ils étaient motivés par le désir de soulager Jésus qui était en train de se reposer, ils ne voulaient peut-être pas le déranger. Mais au début, ils n'ont pas voulu l'impliquer dans leur galère. Et comme ils étaient connaisseurs, ils se sont dit, bon allez, on va gérer. Et c'est peut-être aussi pour ça, enfin, on peut faire le lien avec le psaume 107, toute leur habilité était anéantie. Ça veut dire ceux qui croyaient savoir, mais là, ça leur a servi de rien. Manquer de foi peut se traduire par moment par un excès de confiance dans ses propres capacités. Et si je pense maîtriser un sujet, je peux courir le danger de vouloir moi-même gérer la situation. Et si ça dérape, c'est parfois là que j'appelle le Seigneur à l'aide, comme j'appellerais un pompier. En fait, on peut se poser la question, si le Seigneur affirme qu'ils ont manqué de foi, quelle aurait été alors la bonne attitude qui aurait pu prouver leur foi? L'attitude d'un chrétien idéal, par exemple, que je ne suis pas. Mais c'est une question pas si simple. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire dans ce moment-là? Mais je pense que c'est surtout une question de confiance. Avoir la foi dans cette situation aurait été ne pas s'effrayer, malgré les conditions, en étant assuré que, puisque le Seigneur est bel et bien là, avec nous dans la barque, alors tout est sous son contrôle, même si pour l'instant il reste silencieux. Comme application, ça m'apprend à vraiment garder confiance en Dieu, même au milieu de la tempête. Les disciples, on l'a dit, ils avaient des bonnes raisons d'être inquiets, leur crainte était en apparence légitime, et c'est vrai qu'on peut parfois vivre des situations sur le plan humain qui nous amènent à nous considérer en grand danger, mais Jésus affirme que puisqu'il est dans notre barque, dans notre cœur, nous devons toujours garder espoir. Il est Dieu, il connaît nos galères, il connaît tous nos périls, et donc nous devons garder confiance en lui. Et enfin, ce que nous pouvons dire sur cette scène, c'est que plutôt que de produire la foi dans les disciples, cet épisode va être marqué par la crainte qu'ils ressentent vis-à-vis de Jésus. Et ce n'est pas tout à fait une crainte respectueuse, mais plutôt une frayeur, comme le dit le verset 41. Ne soyons pas effrayés face à notre Seigneur, mais soyons au contraire encore plus confiants en lui. Et nous allons voir que ce phénomène-là de crainte, au lieu d'être poussé plutôt à avoir la foi, à augmenter notre foi, mais ça va être mis en lumière par Marc dans les autres passages que nous allons voir ensuite. La crainte à la place de la foi. Donc on va passer au deuxième passage du soir, la guérison du démoniaque. Et donc est-ce que quelqu'un, une ou deux personnes peut-être veut lire Marc 5, versets 1 à 20?
Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se baissait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. »
En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, » répond-il. Et il le supplie avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent, « Envoie-nous dans ces porcs, afin que nous entrions en eux. » Il leur permit aussitôt, les esprits impurs, sortir de l'homme, entrer. crèvant et fort, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyèrent dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au porc. Et ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement.
Voilà, merci. Donc ici, nous avons une des plus célèbres scènes d'exorcisme de Jésus, puisque il a affaire à un homme qui est possédé non pas par un démon, mais par un grand nombre de démons, comme il est indiqué, qui d'ailleurs est qualifié de légion. C'est comme ça dont il se nomme au verset 9. C'était donc apparemment un bataillon de démons. Est-ce que c'était un démon multiple? On ne sait pas trop comment il faut l'appeler. Un coup, on parle au singulier, un coup, on parle au pluriel. En tout cas, il avait pris possession de cet homme. Et comme ils étaient nombreux, c'est sans doute ça qui le rendait aussi redoutable et fort. On ne pouvait pas le lier. Il cassait les chaînes qu'on essayait de lui mettre au pied, à tel point que les gens ne pouvaient même plus l'approcher. On peut peut-être se demander si cet homme n'a pas subi un petit peu l'expérience que le Seigneur décrit dans Matthieu 12, versets 43-45, si quelqu'un veut le lire.
Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre çà et là dans les lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos, et il n'en trouve pas. Il se dit alors, « Mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. » Il y retourne et donc la trouve vide, balayée et mise en ordre. Alors il va chercher sept autres esprits, encore plus méchants que lui, et les amène avec lui. Ils entrent dans la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. C'est exactement ce qui arrivera à ces gens de notre temps qui sont mauvais.
Voilà, donc là on a le Seigneur qui nous décrit un phénomène possible. C'est le fait qu'un homme soit possédé par plusieurs démons. Donc là apparemment il y en avait vraiment un très très grand nombre. C'est intéressant aussi de rappeler que là il est question d'un homme qui est possédé. Mais dans l'évangile de Matthieu, il y a une précision qui est faite sur le fait qu'il y avait sans doute en fait deux hommes. Mais Marc, ici, il ne décide de se focaliser que sur un. C'était sans doute celui qui était le plus impressionnant des deux. On peut voir ça rapidement dans Matthieu 18 et 28 pour voir que c'est la même scène en fait. Hein.
Lorsqu'il fut arrivé sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques qui sortaient des tombeaux vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait passer par là.
Voilà, donc là on voit qu'ils sont deux. Marc décide de se focaliser sur un nom. Voilà, ça ne se contredit pas, mais c'est en fait une précision différente, et c'est là qu'on voit aussi que les évangiles aborde les différentes scènes sous des angles qui peuvent être des fois différents, dans des buts aussi d'apporter des enseignements qui peuvent être aussi nuancés. On sent que cet homme donc était malmené par ce démon, qui le mettait vraiment à mal sur sa condition physique, hein, en plus de sa condition spirituelle. Je peux lire Luc 4, verset 33-36. Qui nous apporte aussi des précisions sur l'influence des démons sur quelqu'un. Luc 4, 33. il se trouva dans la synagogue un homme qui avait l'esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte : Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça disant : Tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Donc là, on voit que voilà, les démons sont capables de provoquer des réactions dans les êtres qu'ils possèdent. Donc non seulement ils représentent un danger pour son entourage, puisqu'en fait cet homme a été poussé à habiter parmi le sépulcre, qui est d'ailleurs un signe d'un espace impur, mais ce démon ou ces démons poussaient cet homme à se faire du mal, à hurler aussi de manière constante. Il s'est écrit, et certainement que ce devait être des hurlements terribles qui devaient inspirer l'horreur et la désolation. On ne sait pas si sa demeure parmi les sépulcres était là liée à l'initiative de cet homme ou à celle des démons, ou si c'était les habitants qui avaient réussi tant bien que mal à l'isoler dans cette caverne, ça c'est pas précisé. Et quand on lit c'est vraiment la condition de cet homme, on peut quand même se demander s'il est possible de vivre quelque chose de pire que ça sur cette terre, parce que c'est vraiment, il ne s'appartient plus, il est complètement dominé. Et ce qui est frappant, c'est que le démon est parfaitement conscient de l'identité de Jésus, comme le passage qu'on a lu dans Luc d'ailleurs. En fait, il n'a pas besoin qu'on lui présente Jésus. Et c'est bien lui qui surgit, d'ailleurs, c'est écrit, hein, il surgit aussitôt. C'est écrit où ? Voilà, au verset 1, au verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque. Donc vraiment, c'est lui qui vient. Encore une fois, le mot aussitôt. Il surgit du sépulcre. Et après, au verset 7, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Donc, vraiment, on voit que les démons sont parfaitement conscients de qui est Jésus, et cela, ça l'a été à chaque fois. On peut lire aussi Jacques 2, verset 19, qui nous apporte vraiment des précisions là-dessus. C'est Jacques 2, 19.
Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu es bien. Mais les démons le croient aussi et tremblent.
C'est ça. Donc les démons savent, hein, qui est Dieu. Il n'a pas besoin de leur faire un dessin. Ils ont très très bien compris. Ils tremblent à son nom. Oui, parce que même si les démons sont des anges qui se sont rebellés, et même s'ils peuvent provisoirement exercer leur pouvoir sur la terre, il n'en reste pas moins qu'ils ne peuvent rien faire face à la volonté de Dieu. Et ici, nous voyons donc l'autorité de Jésus sur les forces du mal, sur les démons. Et en fait, cette attitude est assez logique, on peut la traduire par une image qui nous projette directement dans un enseignement précieux. Nous savons que Jésus, c'est la lumière du monde. Et nous savons que ces créatures, elles représentent les ténèbres. Et lorsqu'on allume la lumière dans une pièce, les ténèbres qui étaient installées disparaissent automatiquement. C'est vraiment la même chose qui se passe entre Jésus et les démons. Ou un petit peu comme les aimants qui se repoussent quand on les met du mauvais côté, ils se repoussent, ils ne peuvent pas se coller. C'est exactement la même chose. On peut lire Acte 19, verset 13 à 16. Acte 19, 13 à 16. Voilà, je vous le lis. Quelques exorcistes juifs, ambulants, essayèrent d'invoquer sur eux ceux qui avaient des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus, en disant : Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit : Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous ? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'en rendit maître et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Voilà, donc là on voit que Jésus, en fait, il a vraiment l'autorité sur les démons, les forces du mal, et qu'il a confié aussi à ses apôtres cette autorité-là. Mais en fait, ce n'est pas quelque chose qui doit se répandre et qui est quelque chose que l'on peut nous-mêmes ou que n'importe qui peut manipuler. Et en fait, on va essayer de prendre le temps de comprendre pourquoi ces démons cherchent à tout prix à négocier avec Jésus. Pourquoi est-ce que, en fait, ce sont eux qui prennent les devants plutôt que de fuir devant le Seigneur? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas que fuir? En fait, on doit voir quelle est leur position dans le monde. On va lire rapidement 1 Pierre 2, verset 4. Si quelqu'un veut lire 1 Pierre 2, 4.
Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu.
Alors, c'est pas la bonne règle, c'est peut-être 2 pierres.
Deux pierres de 4.
2 pierres de 4, pardon. Voilà.
Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné d'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur.
Voilà, merci. Donc c'est vrai que là, on a lu tout le passage, c'est une phrase interminable en fait. L'élément important, c'est de voir, dans ce qu'on est en train de voir, que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. On peut aussi voir 1 Pierre 3, verset 18 à 20. Absolument. 1 Pierre 3, 18 à 20, je vous le lis. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, etc., etc. Donc, voilà, on voit là également que Dieu est allé prêcher aux esprits en prison. Donc on comprend qu'il y a des esprits en prison, ces esprits-là, ce sont des démons qui avaient péché au temps de Noé, qui avaient même pu s'associer avec des femmes humaines. Et donc, à ce moment-là, ils ont été enfermés dans un abîme. Et ils sont réservés pour un temps de jugement. Et en fait, on comprend que tous les démons ne sont pas encore enfermés dans cet abîme. On va lire aussi Luc 8, verset 31, qui nous apporte aussi une précision autre que le livre de Marc. Luc 8, 31. Bon, je suis désolé, je vous fais passer de passage en passage, mais c'est pour essayer de dégager l'idée qui sort de la crainte en fait des démons. Oui. Luc 8, 31, il dit « Ils lui demandent à quel est ton nom ?»« Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient enfermés en lui, et ils prièrent instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. » Et en fait, la précision de Luc est importante. Elle n'est pas dans Marc, mais la crainte des démons, c'est qu'ils savaient que Jésus avait le pouvoir de les lier dès à présent et de les envoyer dans cet abîme qui leur est réservé. Et dans Marc, il est dit qu'ils ne veulent pas quitter le pays. Mais en fait, ça veut dire, on veut rester ici, on ne veut pas que tu nous envoies dans l'abîme. Et c'est pour ça, en fait, que les démons vont au devant de Jésus et le supplient et essayent de négocier de ne pas faire ça. Donc ils demandent en quelque sorte une grâce à Jésus, une porte de sortie, un échappatoire. Et cet échappatoire, ça va être le troupeau de cochons. C'est comme ça. On comprend donc que ces esprits ont une forte tendance à se loger dans des corps physiques. Et ici, en plus de cet homme, donc il rentre même dans des cochons. C'est compliqué de savoir pourquoi ces cochons se précipitent dans le vide. On sait que les cochons représentent des animaux impurs. Est-ce que c'est peut-être pour imaginer quel va être leur fin? Les esprits impurs seront bien finalement précipités dans l'abîme. Est-ce que cela est représenté par la falaise? On voit hein, dans les versets 12 et 13, on peut relire les versets 12 et 13. Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. J'ai sauté une page. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita, des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait envoyé 2000, ils se noyèrent dans la mer. Donc la Bible, sans doute aussi une image de cet abîme, ça représente quelle sera leur fin. Quoi qu'il en soit, si le passage précédent a proclamé l'autorité de Jésus sur la nature et sur les éléments, ici nous avons bien une démonstration magistrale de l'autorité que Jésus exerce sur la force des ténèbres. Et ça nous prouve encore une fois la divinité de Jésus. C'est vraiment l'enseignement principal qui nous est apporté ici. Il est intéressant aussi de se concentrer sur la réaction de la population. Il constate que cet homme est redevenu dans son bon sens, c'est totalement incroyable. Verset 14, ceux qui faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans les villes et les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Tiens, c'est bizarre. Là encore, comme les disciples dans la barque, ils réagissent par la crainte plutôt que par la foi. Au lieu de croire, au lieu d'adorer Jésus, ils lui demandent en fait de partir. Parce que cette expérience fait comprendre aux habitants de cette région que Jésus allait peut-être les amener à de grands changements dans leur vie dont ils n'étaient peut-être pas prêts. Et ça, ça les effraie. Et en plus, donc, il y a aussi toute la symbolique autour du troupeau de pourceaux. Ils appartenaient à ces gens, donc ils perdent vraiment un gain. C'est vraiment 2000 cochons qui tombent à la mer comme ça. On imagine que c'était une ressource pour eux. Et c'est vrai que lorsque le Seigneur entre dans notre vie, il nous demande aussi d'abandonner tout ce qu'il y a d'impur en nous. Et parfois, ça peut nous coûter. Et tout le monde n'est pas disposé à franchir ce pas. En tout cas, l'ancien démoniaque, lui, a vraiment accepté et reçu cette transformation complète en lui, et on voit qu'il est même prêt à suivre le Seigneur, à s'engager dans le service, et cela démontre que la conversion est réelle, et c'est d'ailleurs extrêmement spectaculaire de voir comment en si peu de temps cet homme était complètement possédé, et tout d'un coup il en vient à être dans son bon sens et à vouloir suivre Jésus. C'est vraiment la lumière qui est venue en lui, qui a chassé les ténèbres en lui. Verset 18, hein, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permet pas, mais il dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla, et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Jésus sait ce qu'il fait, Jésus il a son plan. Il a besoin que cet homme témoigne de sa conversion dans sa région. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que jusque-là, et même plus tard, on va le voir un peu plus loin, Jésus insiste en général pour que personne ne divulgue leur expérience. Mais là, Jésus lui demande de le faire. Sans doute, que cette région avait besoin d'entendre ce récit pour que l'évangile commence à se propager. Donc la mission de l'ancien démoniaque n'est pas du tout une consolation, c'est une demande très sérieuse du Seigneur, une responsabilité qu'il doit prendre avec sérieux et qui n'est pas négligeable. Et parfois, on peut se sentir un peu inutile pour le Seigneur parce que on voudrait faire des choses, mais on est bloqué à tel moment, dans telle vie ou dans telle situation de famille, ou dans des choses où on se dit, mais on voudrait faire plus pour le Seigneur. Mais est-ce qu'on réalise que le simple fait de lui appartenir et de raconter autour de nous ce que nous vivons, par la foi avec lui, mais c'est déjà une responsabilité énorme qui nous est confiée. Et donc c'est ça que le Seigneur va demander à l'ancien démoniaque. Alors on en arrive au troisième passage, je ne sais pas si on aura le temps de finir, peut-être pas, mais au moins on va démarrer, puis on terminera mardi prochain. Alors est-ce que quelqu'un ou deux ou trois personnes veulent lire, on va dire la fin du chapitre 5? Donc Marc 5, versets 21 à 43.
Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, le toucha et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Et ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. »
Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importunes-tu davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante, et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais ils se moquaient de lui. Alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita kumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille.
Voilà. Merci pour cette lecture. Donc on va juste avoir le temps peut-être de commencer à expliquer pourquoi en fait on a deux il semble y avoir deux histoires dans ce passage. Il y a l'histoire un peu de la fille de Jaïrus, et puis il y a l'histoire de cette femme atteinte de la perte de sang. Et on peut se demander Pourquoi est-ce que Marc, en racontant ça, n'a pas séparé les deux histoires, les deux séquences, et ne les a pas traitées de manière indépendante? Mais en fait, si on fait ça, on passe à côté d'une... Alors, ça peut être appelé une technique, c'est un terme de spécialiste. Hein. En fait, dans l'évangile de Marc, il utilise souvent ce qu'on appelle des sandwichs. Ouais. 19h58, on peut commencer à parler de sandwich sans avoir c'est bon. Mais voilà, si on avait fait ça au début, on aurait peut-être pu faire. Mais en fait, il utilise cette technique à plusieurs reprises, on va en voir plusieurs en fait, dans l'évangile. Et nous allons voir en fait en quoi ça consiste rapidement, pour juste commencer à l'évoquer. Un sandwich, c'est quoi? Mais c'est du pain. Une tranche de jambon au milieu et puis une autre tranche de pain, ok?
Petit sandwich.
Voilà, j'ai peut-être le beurre. Vous allez voir, il y a quand même, c'est un sandwich assez nourrissant quand même. Donc la première tranche de pain, vous avez compris que c'est l'histoire de Jaïrus qui vient solliciter Jésus parce que sa fille va mourir. Ça, c'est la première tranche de pain, c'est le premier niveau de lecture. Et puis, intercalé là-dedans, il y a le jambon, c'est la séquence avec cette femme qui est atteinte d'une perte de sang. Et ensuite, on revient sur l'histoire de la fille de Jaïrus avec la deuxième tranche de pain. Et là, c'est la suite et la fin de la guérison, ou plutôt résurrection de la fille de Jaïrus. Et donc, ce qu'on va voir mardi prochain, Dieu voulant, c'est que dans ce schéma-là que Marc utilise très souvent, la clé, l'important, l'enseignement du passage, c'est toujours le jambon. Donc c'est toujours ce qu'il y a en milieu qui permet d'expliquer vraiment toute la scène qui s'est passée. Et c'est vraiment très très intéressant de le lire, d'essayer de l'aborder sous cet angle. Donc c'est vraiment pas par hasard que ces deux histoires sont imbriquées, mais en fait l'une va permettre à l'autre de comprendre et de tirer tout l'enseignement. Voilà, donc là on devrait se lancer dans les versets 21 à 24, à commencer à placer le décor, mais on le fera donc mardi prochain. Et après on essaiera de se dépêcher pour finir le reste, mais ça devrait aller. Est-ce que vous avez peut-être des réactions par rapport à tout ce qu'on a vu, des précisions à apporter, des points à relever?
Beaucoup dans ce texte,
enfin,
dans aussi, il y a une séquence.
Et en fait, tout ça, c'est décrit, c'est raconté, et en fait, c'est pas clairement dit, enfin, il le dit à certains endroits, mais globalement, c'est vraiment, il présente les faits, et nous, on ne peut que réaliser, en fait, qui il est, en fait. Ça révèle son identité au travers de ses actes qu'il accomplit, et c'est vraiment très percutant et très enrichissant et très révélateur pour nous qui connaissons déjà le Seigneur, mais encore plus peut-être pour quelqu'un qui découvre, en fait, c'est ça qui doit sauter aux yeux. Et nous, même si on connaît, on découvre tout un tas de facettes et on s'en nourrit tout le temps, on s'en nourrira jusqu'au bout.
Il y a aussi quelque chose moi qui m'a interpellé, c'est que souvent on pense que Dieu guérit toujours de la même manière. Parce que là, l'homme est venu, il dit, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains. Je crois que la guérison vient toujours par l'imposition des mains. Et Jésus ne lui a pas imposé les mains, il lui a pris la main, il lui a parlé. Donc, ça détruit l'idée que, pour guérir, ben, il faut que vous veniez, que vous lui imposez les mains. Non ? On peut simplement parler, prier simplement en parlant. Sans pour autant imposer, non. Donc c'est un petit détail qui m'a interpellé.
Jésus guérit par la parole.
Par la parole.
Puisqu'il y a le passage où l'homme rentre chez lui et demande à quelle heure son enfant était guéri. Jésus peut demander aussi, peut faire de la boue avec sa salive et demander d'aller se laver. En fait, c'est pas qu'un détail, en fait, c'est très intéressant et ça montre plein de choses. Merci pour cette remarque.
Dans ce qui m'a interpellé là, c'est pourquoi les disciples réagissent par la prière et pourquoi le démoniaque, lui, qui vit dans la peur, dans la terreur, réagit par la foi en voulant suivre Jésus. Donc, c'est quelque chose, je vais méditer, je sais pas, c'est quelque chose que je ne comprends pas, mais il y a peut-être quelque chose à développer. Hein.
Après, je pense que dans Marc, une des choses qui revient de manière assez régulière, et des fois il fait des contrastes assez forts justement entre l'incompréhension des disciples, leur crainte, et puis la foi des fois de Balard à cette personne qui était avec la perte de sang impur, etc., et qui vient au pied de Jésus, et il y a toujours ce contraste assez saisissant, aussi avec la femme syrophénicienne, enfin, on verra plus tard. Mais...
Moi, en lisant ces passages, ça me rappelle le verset, quand on dit que toute autorité a été soumise à Jésus. Quoi. Et dans notre vie de prière, c'est un encouragement. C'est un encouragement. Voilà.
C'est ça qui
sans est, parler de souveraineté, il a toute autorité. Ouais.
Bien sûr. Ouais. Est-ce que Alain, tu voudrais prier pour conclure, s'il te plaît ?
Oui, Seigneur, en effet, nous te bénissons parce que tu t'es révélé encore comme le Tout-Puissant dans ces textes, Seigneur, celui qui a autorité sur la maladie, qui a autorité sur la mort, sur les démons, sur les éléments, sur la nature. Tu es le Créateur, tu es celui qui délivre. Et Seigneur, nous te bénissons pour tous ces encouragements. Donne-nous, Seigneur, de ne pas réagir comme disciples, avec la peur, la frayeur, mais plutôt avec la foi, Seigneur, et avec l'émerveillement devant tout ce que tu accomplis, Seigneur. Fortifier dans la foi, remplir de ta paix et de ta grâce, Seigneur, jour après jour, instant après instant, face aux tempêtes de la vie aussi que nous pouvons être amenés à traverser. Et Seigneur, fais de nous des témoins, Seigneur, donne-nous le zèle de ce démoniaque qui était prêt à suivre Jésus et qui était envoyé pour évangéliser, certainement dans un monde païen. Mais Seigneur, nous sommes aussi dans un monde païen, et Seigneur, que dans ta grâce, nous puissions avoir du fruit de notre témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.